Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être à ce rendez-vous. Commençons cette rétrospective de l'actualité de la semaine du 9 au 15 novembre par ce rapport sur le Burundi, rapport publié le 10 novembre par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, propose de passer à un dialogue dirigé et contrôlé par le Burundi avec l'appui de la communauté internationale. Parfait, Moudassi Ghana a lu pour nous ce rapport.
Selon ce rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des éléments essentiels qui garantiraient une paix et une stabilité durable au Burundi restent sans réponse, notamment le besoin de réconciliation et de cohésion sociale, l'ouverture et le maintien de l'espace politique. Dans ce rapport, Guterres indique que des discussions vont être menées avec des autorités burundaises pour trouver un terrain d'entente sur l'avenir de l'implication de l'ONU dans le pays. Guterres estime que l'entité qui succéderait au bureau de l'envoyé spécial pour le Burundi pourrait prendre la forme d'un bureau autonome avec une certaine supervision de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. D'ici l'aboutissement des discussions, il recommande la prolongation du bureau de l'envoyé spécial pour le Burundi jusqu'au 31 décembre 2021 pendant sa transition vers la nouvelle présence des Nations Unies. Antonio Guterres évoque dans ce rapport l'impasse dans laquelle se trouve le dialogue inter-burundais. Le secrétaire général plaide aussi pour des consultations entre la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine, l'ONU et le gouvernement burundais. Selon lui, une option pourrait consister à passer d'un dialogue inter-burundais dirigé par la communauté de l'Afrique de l'Est à un dialogue dirigé et contrôlé par le Burundi, avec l'appui de l'ONU, de l'Union africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est. En terminant son rapport, Antonio Guterres trouve que le rôle des jeunes Imbonerakure reste un point de controverse parmi les Burundais. Avec l'accord du gouvernement burundais, il indique que l'Organisation des Nations Unies pourrait aider les autorités à faire face à ces préoccupations en apportant un soutien aux activités qui facilitent l'insertion socio-économique des jeunes Imbonerakure et, si besoin, des programmes spéciaux de collecte d'armes pourraient être conçus pour assurer une paix et une sécurité durable dans le pays.
De l'avis des Burundais qui se sont exprimés au micro de la radio Inzamba, le dialogue que propose le secrétaire général des Nations Unies dans ce rapport risque d'être une utopie parce que la page de 2015 est déjà tournée avec la mise en place de nouvelles institutions. Pour d'autres, la paix n'a pas de prix, raison pour laquelle le pouvoir du CNDD-FDD devrait accepter ce dialogue pour que le Burundi retrouve la paix et la sécurité.
Je ne pense pas que l'appel du secrétaire général de l'ONU aboutira à quelque chose de valeur pour convaincre le gouvernement du Burundi, parce que c'est clair que ce gouvernement-là ne donne aucune valeur à l'ONU, ce qui se montre dans les différents discours prononcés par les membres de ce gouvernement. De plus, ces dirigeants-là ne donnent aucune place au dialogue inter-Burundi, il veut résoudre les problèmes politiques par l'arme et l'assassinat de tout opposant.
Paul, le secrétaire général de l'ONU, semble-t-il des putschistes qui parlent en France demandent au gouvernement du Burundi des négociations non inclusives et non fondées sans col. Par ailleurs, le Burundi dit de la paix et de la sécurité totale. C'est pas nécessaire des négociations. Parlons du développement et de l'équipement qui sont les préoccupations de l'État. Sinon, les négociations sont nulles et sans
effet. Les Burundais n'ont pas l'espoir sur le dialogue parce que les choses se sont tempérées bien avant, quand ils ont changé la constitution. Même si je n'ai pas encore bien lu la nouvelle constitution en profondeur, je sais qu'est-ce qu'ils ont modifié tourne en faveur du gouvernement actuel burundais. C'est pourquoi on n'espère pas grand-chose.
En ce moment, je donne peu de chance à la réussite de cette proposition, car, premièrement, l'opposition armée n'a pas encore eu de force nécessaire pour faire fléchir l'Aïsémie et son parti et le conduire à accepter de négocier. Deuxièmement, les politiciens en exil semblent être endormis et n'agissent pas. Troisièmement, La communauté internationale n'a jamais mis de pression sur le gouvernement du Burundi et le FNDD-FDD depuis l'époque de fait Mkapa.
Je salue l'étape franchie par la secrétaire générale des Nations Unies. On connaît tous que c'est celle, le dialogue inclusif qui va aider dans la résolution du conflit burundais. Donc j'ai l'espoir que c'est possible, dans le sens que les Nations Unies, qui a aidé aussi dans l'établissement des accords d'Arusha pour la paix au Burundi, peut aussi utiliser leurs moyens diplomatiques et politiques acceptés par le G de la Charte des Nations Unies pour amener l'État à négocier.
Le ministère de la Justice a procédé cette semaine aux ventes aux enchères des biens des présumés auteurs du coup d'État manqué de 2015. Selon la coalition d'opposition politique CFR Arusha, ces biens retourneront à leurs vrais propriétaires quand il y aura une justice indépendante. Ils appartiennent aux familles et non aux individus, fait remarquer Frédéric Bamvoulinou-Villa, président de la coalition CFOR Arusha.
Ça ne devrait pas être vendu. Les biens devraient être entretenus par l'État et non pas les vendre à quelqu'un d'autre. Parce que ces biens-là appartiennent non pas aux personnes qui sont accusées. Ces biens appartiennent à la famille et non pas au chef de famille. C'est ça la différence qu'ils doivent absolument faire. Aucun pouvoir ne peut condamner des familles entières à l'errance, et tout simplement parce qu'il y a un problème entre le pouvoir et le chef de ménage. Deuxième élément, c'est que les biens qui vont être achetés peuvent l'être aujourd'hui. Mais l'expérience a montré par le passé que les biens qui ont été pillés en 1972, les biens qui ont été injustement occupés par des personnes lors de justement des problèmes de 1972, les biens qui ont été achetés par d'autres, de quelqu'un qui les a pris par force, eh bien, qu'est-ce que l'expérience montre? L'expérience a montré que ces personnes-là finissent par perdre. J'invite donc ces personnes qui viendraient acheter à travers cette vente aux enchères des biens appartenant aux personnes jugées par le pouvoir en place, que ce pouvoir qui fait un jugement aujourd'hui, ce jugement peut être revu. C'est comme ça que les choses se passent. C'est aussitôt que la personne est libre de venir au Burundi, aussitôt qu'il y a de la paix au Burundi, ces personnes peuvent absolument interjeter la paix et avoir gain de cause. Alors maintenant, qu'est-ce qui va perdre au finish? C'est cette personne-là qui aura acheté ces biens-là de façon irrégulière et il finira par perdre.
C'était Frédéric Bamvoulinou-Villa, président de la coalition CFOR. A précisé que la presse a été interdite de couvrir cette vente aux enchères. À ce propos, la Fédération internationale des journalistes FIJ a dénoncé en outre cas de privation de la liberté de la presse au Burundi. Ernest Sagaga, il est chargé des droits de l'homme et de la protection des journalistes à la FIJ.
Je pense que effectivement c'est encore un cas de limitation de la liberté de la presse au Burundi, parce que de ce que nous entendons, il s'agit d'un événement public qui se fait en public, et donc il faut absolument qu'il y ait un accès aux journalistes qui le souhaitent, pour qu'ils puissent expliquer exactement ce qui se passe, qu'ils puissent s'entretenir avec toutes les parties concernées par l'événement, et que donc à la fin, ils puissent donner une information fouillée et indépendante et fiable au public. Ils doivent revenir la raison, ils doivent respecter l'indépendance des journalistes, et l'indépendance des journalistes implique également un accès à une information, notamment accès à un lieu où se passe un événement public.
Ernest Sagaga, joint au téléphone par Jean-Georges Kivokola. De son côté, Janvier Wigilimana, juriste, explique que selon l'article 291 du Code de procédure civile, le juge et l'huissier doivent tout faire pour que le caractère public de la vente aux enchères soit garanti, évitant toute forme de clandestinité. On l'écoute.
Nous aimerions rappeler qu'en principe, toutes les procédures judiciaires revêtent un caractère public, sauf quelques exceptions où le oui clos peut s'imposer compte tenu des circonstances particulières de la cause ainsi que de la nature des litiges. En vertu de l'article 291 et suivant du Code de procédure civile, il est précisé clairement que le juge ainsi que l'huissier de justice doivent tout faire pour déterminer le jour et le lieu de la vente, mais aussi avant cela, ils doivent procéder à l'affichage et à la notification des parties intéressées par cette vente pour qu'elles puissent éventuellement formuler des observations, notamment lorsque les procédures n'ont pas respecté la loi. L'autre précision qui est très importante, c'est que en vertu de cette disposition, le juge ainsi que l'huissier doivent tout faire pour que le caractère public de la vente soit garanti. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si la vente opérée à l'endroit de certains biens qui ont été saisis se fait de façon clandestine, c'est une violation flagrante de la loi, parce que la loi ne permet pas à ce que son genre de vente se fasse dans une clandestinité, surtout que tout citoyen peut être acquéreur de ces biens qui sont vendus en public. C'est-à-dire que si cela se fait à loin des médias, on peut suspecter d'ores et déjà qu'il y a des membres influents du parti au pouvoir qui veulent être acquéreurs de ces biens à vil prix.
Attention, attention. La COVID-19 est un virus qui peut infecter tout le monde sans exception. Personnes âgées, adolescents, enfants et même les nourrissons. Mais qui sont les personnes les plus à risque? Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète, l'asthme, le VIH-Sida ou une maladie cardiaque, semblent courir davantage de risques de développer des symptômes graves. Il est donc primordial pour ces personnes de se protéger en respectant les mesures barrières de prévention de la COVID-19, notamment en portant les masques chaque fois qu'elles sont en public, en se lavant régulièrement les mains et en évitant les déplacements moins nécessaires.
Ceci est un message de la radio Nzamba, Agathe Kakao.
Suite de cette rétro de l'actualité de la semaine écoulée avec la célébration par le parti CNDD-FDD, la semaine dédiée aux combattants. Le parti CNDD, dont est issu le CNDD-FDD, dénonce des objectifs propagandistes du parti présidentiel. Léonard Nyangoma, président du CNDD, déplore que le parti au pouvoir n'assure pas le bien-être de tous les Burundais dans leur diversité. C'était pourtant l'objectif que le mouvement CNDD s'était fixé avant de prendre les armes, selon Léonard Nyangoma. Toujours à ce sujet, Charles Nditije, président du parti Uprona, non reconnu par le pouvoir de Gitega, estime que les combattants du CNDD-FDD ne devraient pas être appelés des combattants parce qu'ils ont commis plusieurs crimes avant que le CNDD-FDD n'arrive au pouvoir. La journée ou la semaine du combattant devrait donc être dédiée aux Burundais qui ont combattu aux côtés de Dominique Gbagbo contre les Allemands envahisseurs lors de la lutte pour la souveraineté du Burundi, selon toujours Charles Nditije.
Quels combats ont-ils menés? Qu'a-t-il apporté de mieux, de positif pour le peuple burundais? Était-ce réellement un combat louable à célébrer lorsque, pendant presque 10 ans, on ne fait que tuer des innocents comme à Teza, à Bouta, ou quand on massacre des rescapés du génocide de 1993 comme à Bougindana et ailleurs? Est-ce réellement un combat louable quand on arrête des gens sur les routes qui sont dans des transports en commun? Et quoi les massacres pendant les 10 ans qu'ils ont commis ces massacres? Ces fameux combattants du CNDD-FDD n'ont même pas réussi à prendre une colline, encore moins une commune du pays. Et c'est cela vraiment le combat qu'ils célèbrent. Et souvenez-vous qu'ils ont même accédé au pouvoir à travers les négociations après l'accord d'Arusha, quand ils ont signé l'accord global de cesser le feu en 2003. Ils devraient plutôt avoir honte et demander pardon au peuple burundais. On ne fait pas le carnage, on ne fait pas le massacre des innocents, le massacre de ses frères, uniquement parce que vous n'avez pas la même ethnie ou que vous n'avez pas la même vision politique. Et pour moi, la journée du combattant, la semaine du combattant, devrait être commémoré en mémoire des Burundais qui ont combattu Rumaliza et surtout en mémoire des vaillants soldats Domwe Zigisabo qu'on appelait Abadasigana qui ont payé à leur tribu en prenant des lances et des flèches pour combattre les Allemands, ce qu'on appelle la bataille d'Onago à Muramvya. C'était juste avant le traité d'Okiganda. C'est cela, le combat pour la souveraineté, le combat contre l'envahisseur étranger. C'est cela qui devrait être célébré. Le reste, c'est une farce, c'est une comédie de mauvais goût.
Avant de terminer, je vous rappelle que cela fait 390 jours que quatre journalistes du groupe de presse Iwachu sont sous les verrous. Christine, Agnès et J.D. Terrence ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Ouaza alors qu'ils se rendaient à Musigati, l'une des communes de cette province, pour un reportage sur une attaque rebelle. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et au paiement d'une amende d'1 million de francs burundais chacun. Ils sont poursuivis pour tentative de complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. Fin de cette rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Elle a été présentée par Francine Kanyangé. Merci de l'avoir écoutée. Bonne fin de week-end à tous.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.